Esprit.
Entendre.
Esprit.
Comprendre.
Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.
On y va ? On déballe ?
Il n'y a jamais de voix favorable parce qu'il faut toujours au moins sauver l'honneur de la pensée, de la politique, et que donc, même quand tout est perdu, l'honneur n'est jamais perdu, qu'il y a donc de ce point de vue-là toujours des raisons de tenir bon.
Intellectuel et sans pouvoir, et c'est en tant qu'il est inefficace qu'il peut servir.
The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. But I would say not thinking and not et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
Bouvier était un homme qui participait tout à fait aux débats et aux affrontements du monde.
Bienvenue dans À plusieurs voix, le podcast de la revue Esprit qui fait dialoguer ses textes d'hier avec ses auteurs et autrices d'aujourd'hui, pour une conversation au présent sur la vie des idées. Dans cet épisode, Emmanuel Laurentin, journaliste et historien, choisit un texte de Geoffre Dumasdier, publié en 1959, et nous parle de société des loisirs, de pratiques culturelles et de leurs enjeux démocratiques.
Donc c'est là la totalité de la collection d'Esprit. Et on cherche le grand volume consacré au loisir. Le voilà. Le loisir, nouvelle série d'Esprit, juin 1959.
Trop d'idéologies actuelles ressemblent à des coquillages abandonnés par la vie qui est passée par là, du temps de Ricardo, de Proudhon ou de Marx. Aujourd'hui, dans nos sociétés évoluées, le loisir, pratique ou besoin, est une réalité familière. Mais l'idée de loisir est loin d'être intégrée dans les systèmes de pensée qui guident la réflexion des intellectuels ou l'action des militants, qu'ils soient de gauche ou de droite, partisans ou adversaires des systèmes capitalistes ou socialistes. De bons esprits résonnent sur la société comme si cette notion nouvelle n'existait pas. D'audacieux intellectuels l'écartent même délibérément dans leur quête de systèmes nouveaux, plus fidèles à la réalité d'aujourd'hui. Nous nous proposons de montrer que cette sous-estimation théorique du loisir risque d'enfanter des systèmes de pensée privés d'une part de vie dès la naissance. Il ne suffit pas de rechercher les problèmes de l'homme à travers le cinéma, le sport, le théâtre ou la télévision, pour découvrir le problème général que pose le loisir dans la culture contemporaine. La réflexion particulière sur une activité de loisir empêche souvent d'accéder à la réflexion générale sur le loisir. Les arbres cachent la forêt.
Ce qui est intéressant dans les pensées de Geoffre Dumasdier, c'est qu'elle se situe après la Seconde Guerre mondiale, que cet homme est donc né pendant la Première Guerre mondiale. Il doit d'ailleurs son prénom à cela, puisque c'est un prénom qui lui a été donné en hommage au maréchal Geoffre. Et donc ensuite, il aura vécu la Seconde Guerre mondiale de manière un peu particulière. Il aura été membre des équipes d'Uriage après avoir fait des études de linguistique à la Sorbonne avant la guerre. Membre des équipes d'Uriage, c'est quelque chose d'important parce que c'est participer à une épopée qui a été très contestée, qui est celle de ces gens qui sont proches d'Emmanuel Mounier, de la revue Esprit, qui vont accepter de fonder une école des cadres voulue par Vichy au début de la Seconde Guerre mondiale et partir ensuite dans la résistance à partir de 1942 ou de 1943. Et lui, c'est ce qu'il va faire, il va aller dans le Vercors. Et à partir du moment où il sera installé dans le Vercors, il va mettre en place des équipes volantes qui vont former les membres des maquis et les membres des maquis du Vercors ou des Glières. Ces équipes volantes, c'est important parce que ça lui permet de mettre en pratique une théorie qu'il a déjà. Il a noté que dans les collèges de travail où il avait commencé à enseigner avant la guerre, les gens qu'il avait en face de lui n'étaient pas aussi attirés par les ouvrages classiques, par la littérature classique, et qu'il lui fallait donc imaginer que par le bas, il y avait une autre culture, il y avait une autre façon de penser le monde et qu'il fallait tenter de mixer les deux, de les faire se rencontrer. C'est ce qu'il fait à travers ce texte d'ouverture quand il critique d'audacieux intellectuels ou quand il imagine que de bons esprits résonnent sur la société comme si la notion nouvelle du loisir n'existait pas. Lui, il se place à une position particulière dans l'entre-deux, entre une pensée intellectuelle. Il est chercheur au CNRS, il a monté à ce moment-là des groupes de travail autour de la question du loisir depuis le début des années 50. Il a pratiqué en tant que fondateur après la guerre les maisons des jeunes et de la culture. Il a travaillé à fonder des méthodes d'action culturelle qui sont proches de l'éducation populaire. Et tout cela, on le retrouve dans ce premier texte parce qu'on voit bien qu'il a une position particulière, très attirée par une pensée forte, qui est la pensée marxiste, par exemple, très attirée aussi par une pensée américaine dont il est un grand lecteur, pensée américaine qui est déjà en train de travailler sur cette notion de loisir, mais il veut la critiquer également, et il essaye de trouver un entre-deux, entre ces deux positions, donc idéologiques. C'est pour ça que le texte en question s'intitule « Réalité du loisir et idéologie au pluriel ». Ce texte est intéressant parce qu'il se situe en 1959, au moment même où naît le ministère des Affaires culturelles d'André Malraux. Il le propose à la revue Esprit, et ce texte va servir de base au travail qu'il fera ensuite, qui sera son maître-livre en 1962, « Vers une civilisation des loisirs ». Donc il faut qu'il y ait dans ce texte les prémices, pourrait-on dire, de la structure du plan qu'il veut élaborer. Et ce plan, il est fondé, par exemple, sur ce qu'il appelle les 3D. Alors, détente, divertissement, développement personnel. Donc, détente, c'est la question des loisirs de plein air, des loisirs sportifs, parce que Dumasdier a cette particularité, peut-être aussi pour être passé par Uriage, où il y avait cette dimension de culture du corps qui était propre au premier Vichy, pourrait-on dire. Donc, il a cette dimension de ne pas négliger le sport et de considérer que c'est très important dans le développement de l'être humain. Il y a aussi le divertissement, c'est-à-dire la question des loisirs sociaux, des pratiques sociales autour de la culture. Et puis le développement personnel, c'est comment chacun d'entre nous appréhende les propositions culturelles qui lui sont faites et comment, d'une certaine manière, il se les approprie différemment des autres. Et puis, il y a quelque chose qui est aussi central, c'est cette idée que le loisir est lié au travail. Il faut l'imaginer comme étant non pas un envers du travail, comme beaucoup de personnes l'imaginaient à l'époque, mais un temps à soi, dégagé des obligations professionnelles, mais aussi, et c'est très important, et c'est pour ça que le terme d'idéologie est important, mais aussi parce qu'il est dégagé des engagements sociaux, partisans ou religieux. C'est un moment où on n'est plus contraint d'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, on peut bricoler, on peut inventer. On n'est pas très loin des bricolages postérieurs que fera Michel de Certeau. Cette idée, effectivement, qu'il y a dans nos vies personnelles, nos vies quotidiennes, un bricolage permanent entre les contraintes qui nous sont données par la société.
Des philosophes et des éducateurs pense qu'il est possible de distinguer les loisirs passifs et les loisirs actifs. La distinction des caractères actifs et passifs du loisir présente le plus grand intérêt pour l'analyse et l'orientation de la culture en fonction des besoins d'une société technicienne et démocratique. Mais elle est moins liée aux catégories des activités qu'au contenu des attitudes. Au nom de quels critères classer l'assistance au cinéma dans une catégorie et l'assistance au théâtre dans l'autre ? La pratique du travail manuel dans la première et la réflexion livresque dans l'autre. En réalité, il y a une attitude passive ou active et toutes sortes d'attitudes intermédiaires à l'égard du cinéma et du théâtre, du travail manuel et du travail intellectuel, de la pratique et du spectacle sportif, de la pratique du café ou de la fréquentation d'une association, etc. L'ambiguïté du loisir se retrouve dans chacune de ces activités vécues. Elle est si importante qu'elle déborde le plan particulier des occupations du loisir pour atteindre le plan général de la culture vécue par des millions d'hommes. Cette culture-là est un ensemble de représentations de la vie quotidienne et d'attitudes à l'égard de la vie quotidienne. Pour qu'elle favorise, au lieu de contrarier, l'épanouissement de la personnalité dans une participation active à la vie sociale, cette culture doit comporter dans ses fins et ses moyens
au moins un certain intérêt pour les problèmes économiques, sociaux, politiques, scientifiques, artistiques de la société, des classes, des catégories et des groupes. Aujourd'hui, c'est une erreur simpliste de penser qu'une telle culture n'est que le reflet de la situation économique de chaque classe sociale. En réalité, elle a des relations complexes avec la situation sociale et culturelle globale de chaque milieu. Le genre de vie y a autant d'importance que le niveau de vie.
Alors, ce qui est important dans la pratique culturelle de Geoffroy Dumasdier et la façon dont il envisage effectivement cette question du loisir, c'est qu'il ne veut pas abandonner. Il ne veut ni abandonner une vision du travail qui est partagée par beaucoup de ses contemporains, ni une vision de ce qu'est la culture du corps, par exemple, par le sport qu'il a lui-même. Et il tente d'enjamber. Et dans cet enjambement, eh bien c'est ce qu'il dit dans le texte, c'est en réalité il y a une attitude passive ou active dans toutes sortes d'attitudes intermédiaires à l'égard du cinéma et du théâtre, du travail intellectuel et du travail manuel, de la pratique et des spectacles sportifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement passif quand on regarde un spectacle sportif, on est aussi actif parce qu'on pratique par ailleurs le sport et qu'il peut y avoir, disons, des conjonctions entre le moment où on regarde et le moment où on pratique, et qu'il n'y a pas une opposition de l'un et de l'autre. Et son cœur de propos, c'est de dire qu'il faut sortir des idéologies qui ne voient le loisir que comme le négatif du travail, parce que dans le loisir, il y a l'ambiguïté. Le loisir est ambigu, dit-il, et cela, c'est extrêmement intéressant, parce que ça nous rend à une complexité vécue de ce qu'est le loisir, de la manière dont on pratique soi-même. Et quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur son canapé, qu'on lit, ou qu'on regarde une série, ou qu'on regarde une émission de télévision? Est-ce qu'on est actif? Est-ce qu'on est passif? Est-ce qu'on est juste une sorte de réceptacle à ce qu'on nous propose? Ou est-ce qu'on met déjà en relation ce que l'on voit, ce que l'on lit, avec ce que l'on sait auparavant? Et donc, on construit quelque chose et donc on n'est plus passif, on est actif. C'est ce que tente de raconter Geoffroy Dumasdier dans ce texte. C'est tout à fait évident que la pratique de Dumasdier après-guerre, la création des Maisons des Jeunes de la Culture et de l'association Peuple Culture qu'il crée avec Benigno Cáceres, qui était avec lui à Uriage, cette pensée-là, Benigno Cáceres était charpentier de formation, et il n'avait pas ses lignements de culture savante, il les a acquis avec Geoffroy Dumasdier, à côté de Geoffroy Dumasdier, et Benigno Cáceres est devenu ensuite un penseur, un intellectuel, un écrivain. Et comment tout cela s'est passé par cette question de l'émancipation. Il y a là la notion de l'éducation populaire. On sait très bien que Dumasdier, il l'a raconté 20 fois, a été très impressionné par 1936, par le Front populaire, par la mise en place d'une éducation populaire et Léo Lagrange en particulier à ce moment-là, et qu'il y a chez lui cette idée que cette éducation populaire peut servir à émanciper les ouvriers, les travailleurs, parce que la pratique de Dumasdier se place auprès des travailleurs. Il fait des enquêtes à Annecy, Annecy qui est justement dans cette même région où il a combattu pendant la guerre, où il y a le club des Marquisats, qui est donc une des premières maisons des jeunes et de la culture, et où il a la possibilité d'interroger avec ses équipes, parce qu'il est chercheur, des travailleurs sur la façon dont ils perçoivent le loisir. Et donc ces enquêtes de terrain vont nourrir sa réflexion. Donc ça n'est jamais une réflexion qui est sortie de la théorie, mais qui part toujours de la pratique, et donc des pratiques d'émancipation qu'il a pu noter sur le terrain. Ce texte n'est que un parmi les dizaines de textes que j'ai lus au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la revue Esprit, où j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire d'Uriage et donc à la création de cette école, puisqu'on était, lorsque je m'intéresse à cela, on n'est pas très éloigné du livre de BHL sur l'idéologie française, qui accuse donc Esprit d'être les héritiers d'un certain vichisme par l'intermédiaire de cette école d'Uriage, et que, évidemment, quand on s'intéresse à l'histoire, eh bien, on se dit qu'est-ce que c'est que cette école d'Uriage, quels étaient ses fondateurs, en quoi est-elle vichiste, pétainiste, vichisto-résistante, prémisse d'une résistante pour ceux qui vont monter au maquis, que ce soit Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde ensuite, que ce soit Geoffroy Dumasdier ou d'autres qui vont monter soit au Vercors, soit dans d'autres maquis à la fin de la guerre. Enfin, tout ça, ça m'intéressait. Et donc, j'ai rencontré Geoffroy Dumasdier pour un documentaire d'histoire que je faisais pour pouvoir essayer de démêler un peu tout cela. Et j'ai découvert son travail sur le loisir à cette occasion-là. Et ça m'a assez fasciné parce que je n'imaginais pas qu'il y avait dans cette matrice-là des années 50 une réflexion aussi poussée, aussi fondée aussi sur des travaux empiriques, qui étaient des travaux de recherche, sur ce qu'on a appelé ensuite les pratiques culturelles, la façon dont on est chacun et chacune installé dans une vision de la culture, de ce qu'est notre culture, culture savante, culture légitime, culture illégitime. Et qu'il y a déjà cette réflexion chez Geoffroy Dumasdier, outre le fait que j'étais très heureux de le rencontrer parce que c'était un bon moment de rencontre radiophonique, mais c'était surtout pour moi une façon de repousser plus loin cette pensée sur les loisirs et sur la culture que j'imaginais beaucoup plus proche des années 60-70, alors que c'était déjà en prémisse au tout début des années 50.
La signification du loisir, tour à tour positive et négative, prometteuse et inquiétante pour l'homme, pour le démocrate, dépend en grande partie du contexte social qui le nourrit. Des incitations ou des contraintes que la société exerce sur lui dans le sens qu'elle croit possible et souhaitable. Chaque société sécrète sa culture, disait Durkheim. La nôtre hésite. Quelle culture veut notre société? Donc, quel loisir veut-elle? Chaque société, chaque milieu, chaque groupe doit se poser clairement ce problème qui commande le devenir démocratique. Un État monstrueux et ennuyant, qui force par la contrainte ses citoyens à occuper leurs loisirs principalement par l'instruction et le service social, n'est pas plus acceptable pour l'homme qu'une société débile et indifférente qui laisse les marchands susciter librement, pour leur seul profit, des besoins de loisirs infantiles ou des pratiques inadaptées. Chaque société démocratique, qui souhaite la libre participation des citoyens à son devenir, ne saurait être indifférente à la culture vécue de ses citoyens qui commandent cette libre participation. Elle doit favoriser l'orientation sociale et culturelle, des activités de loisirs, tout en permettant à chacun son libre épanouissement dans le divertissement réel ou imaginaire. Comme pour l'élévation du niveau de vie, une planification, non pas impérative mais indicative, non pas totalitaire mais pluraliste, s'impose pour susciter des loisirs à la fois satisfaisants pour la société et pour l'individu.
Ce qui est intéressant dans ce texte, et ce qui nous dit qu'il faut le lire encore aujourd'hui, c'est simplement qu'il y a moins de jugement que dans beaucoup des textes de ces années-là sur la pratique des contemporains. C'est-à-dire que, certes, Dumasdier, c'est un intellectuel, mais on lui reprocherait presque d'être trop proche d'un certain terrain et de ne pas mettre en place une hiérarchie des normes, une hiérarchie des valeurs qui est partagée par beaucoup à ce moment-là. La culture savante est peut-être dans certains milieux en recul, mais il nous dit qu'il faut prendre en compte les pratiques qui ne sont pas de la culture savante, mais qui la bricole, la réinterprète, la réutilise au quotidien. Par exemple, quand il s'intéresse au PMU, eh bien, simplement il se dit, voilà une pratique qui est descendue de l'échelle sociale, puisque la question des yearlings, la question des derbies comme à Epsom, etc., était pratiquée par l'aristocratie anglaise, puis les aristocraties européennes, mais aujourd'hui, c'est descendu au peuple d'une certaine manière. Donc, il faut s'intéresser à pourquoi cette pratique peut être une pratique aussi culturelle. Dans une notation très brève dans ce texte, par exemple, il dit « il faut s'intéresser », il cite Roger Caillois, « au goût croissant pour la vie jouée ». Qu'est-ce que Caillois appelle la vie jouée ? C'est d'une certaine manière, c'est la fiction. Il y a tout un paragraphe dans le texte où il se dit pourquoi y a-t-il tant de gens qui s'intéressent à la fiction ? Pourquoi la fiction passionne-t-elle mes contemporains ? Pourquoi le cinéma, le théâtre, le roman et tout un tas d'autres moyens, la télévision, etc., sont des lieux où la fiction prend tant de place dans les vies des contemporains. Geoffroy Dumasdier nous dit il faut s'intéresser à cette vie jouée. Et puis, il y a chez lui cette idée que le populaire, et là on est vraiment dans les années 50, le populaire, il faut se rappeler quand même que c'est Jean Vilar, le Théâtre National Populaire, que c'est la création dans toutes les régions de France de grandes compagnies théâtrales. Cette idée que le populaire, le goût du populaire évolue. Et que malgré ce qu'en disent les élites aristocratiques encore de l'époque ou les élites intellectuelles, on a une population en France qui a une culture bien plus large que celle qu'avaient ses parents ou ses grands-parents. Et cela, effectivement, c'est intéressant quand on réfléchit aujourd'hui à la façon dont on juge les cultures, dont on les classe. Est-ce que le rap, qui est dominant en musique, c'est de la culture? Beaucoup vous diront non, mais en fait, c'est de la culture. Et là, on rejoint les prémices de la réflexion, puisqu'il en était à l'origine, de Geoffroy Dumasdier sur les pratiques culturelles des Français.
Vous pouvez retrouver ce texte sur notre site internet esprit.presse.fr. C'était À plusieurs voix, un podcast de la revue Esprit, écrit et préparé par Anne Dugin et Rémi Baille, réalisé par Louise André. Lecture, Sarah Stern. Musique originale, Valentin Fernandez. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.